Voilà, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons, je vais droit au but, nous allons continuer donc l'étude suivie de l'épître de Jacques au chapitre 4, les versets 1 à 10. Et donc, vu les contraintes, je vais essayer d'aller droit au but à chaque fois. Donc, toujours pareil, c'est une traduction à partir du texte syriaque, araméen, donc de la Bible des chrétiens d'Orient. Il s'appelle la Pshita. Pshita, ça veut dire la droite, la directe. D'où vient-il, autrement dit, quelle est la source, d'où vient-il qu'il y ait parmi vous des guerres et des querelles? N'est-ce pas de vos convoitises ou de vos désirs qui font la guerre dans vos membres? Alors d'emblée, les guerres dans l'Église sont le reflet de guerres internes. Et c'est ça que je vais développer aujourd'hui. Vous convoitez et vous n'avez pas. Et vous tuez et vous êtes jaloux. Et les choses ne viennent pas dans vos mains. Comme on dit, vous ne recevez pas ce que vous désirez. Et vous vous querellez et vous faites la guerre. Vous voyez, les termes sont forts. Hein? Et vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez d'une mauvaise manière, afin que vous nourrissiez vos convoitises. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié de ce monde est inimitié envers Dieu? Quiconque donc veut être ami de ce monde devient ennemi de Dieu. Ou bien pensez-vous vainement que l'Écriture dit « Avec jalousie, Dieu désire l'Esprit qui a demeuré en nous. » Mais une grâce, on a parlé de la grâce tout à l'heure, mais une grâce plus grande ou plus abondante, il nous donne, notre Seigneur. C'est pourquoi il dit « Dieu humilie l'orgueilleux et à l'humble, il donne grâce. Assujettissez-vous donc à Dieu et tenez-vous debout pour résister en face de Satan, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, sanctifiez vos cœurs, vous dont l'âme est divisée, partagée. Humiliez-vous et lamentez-vous, et que votre rire se tourne en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Donc voilà le texte pour aujourd'hui. Que le Seigneur puisse accompagner sa parole et que ça puisse parler à chacun d'entre nous. D'abord, d'où vient qu'il y ait parmi vous, donc on parle bien là dans l'Église, des guerres et des querelles. Donc à nouveau, le terme employé par Jacques est quand même assez fort. C'est bien guerre et querelle. Et il dit, ça vient de la guerre interne et des querelles internes. Il y a quelque chose qui se passe en intérieur, qui se traduit à l'extérieur par des dissensions, des tensions, des guerres, des querelles, des mésententes. Il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas unifié. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a une guerre intérieure. Et je vais mettre le doigt là-dessus. D'abord à l'extérieur. Matthieu 12, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et par nos paroles, nous sommes justifiés ou condamnés. Donc déjà, les paroles sont le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Quelle est la source, évidemment, de ce qui se passe à l'intérieur? Proverbe 13. L'orgueil ne produit que des querelles. Tiens, on retrouve ce terme. Et l'orgueil qui produit des querelles, ça vient de tensions internes, d'insatisfaction interne. Ça se voit particulièrement, ce genre de choses, quand on cherche à imposer son point de vue aux autres. Et à nouveau, je vais me poser la question dans quelques minutes, mais d'où vient cette manie de vouloir absolument imposer son point de vue à l'autre? D'où vient ça? Qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que je cherche à sécuriser à l'intérieur? Qu'est-ce qui est à ce point instable et insécure à l'intérieur que je cherche à me rassurer en imposant mon point de vue aux autres? Alors, c'est intéressant parce qu'il y a tout un chapitre dans l'Épître aux Romains, au chapitre 14, qui illustre un peu ce genre de tension, liée en particulier à la conscience. C'est un des exemples. Mais j'irai plus loin après. Ça, c'est un verset qui m'est beaucoup venu ces derniers temps, dans Romains 14, « Que chacun ait en son intelligence une pleine conviction. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, pas pour l'autre. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Pourquoi cherches-tu à l'imposer à l'autre ?» Alors, dans le contexte de Romains 14, vous vous souvenez, c'était la question de la nourriture. Tel a une conscience forte et estime qu'il peut manger de tout. Tel autre qui a une conscience faible va se dire « Ah oui, mais attends, cette viande, elle a été sacrifiée dans un temple païen. » Et la conscience est gênée. C'est intéressant dans Romains 14, et je n'ai pas le temps de le développer aujourd'hui, c'est que quand vous lisez bien Romains 14, celui qui est fort a tendance à mépriser le faible. Alors là, lui encore avec ses problèmes de conscience. Et il est dit, par contre, celui qui est faible a tendance à juger celui qui est plus fort. C'est intéressant. On aurait pu penser l'inverse. Celui qui est fort juge. En fait, non, c'est celui dont la conscience est faible qui juge l'autre. Et si vous lisez Romains 14, il est énormément question de jugement. Qui es-tu pour juger ton prochain? Et Paul parle aux faibles. Je ne vais pas développer ça, mais c'est intéressant à noter. Donc, il peut y avoir des dissensions, des querelles pour des questions, des motifs de conscience. Et j'ai noté que le comportement externe était souvent un thermomètre dans l'Église, en fait, d'une fièvre interne qui est liée, bien évidemment, à l'orgueil. C'est pour ça qu'ensuite, Jacques va nous parler de l'orgueil par rapport à l'humilité. Le moteur profond de ces guerres et de ces querelles, c'est le besoin de se justifier, donc c'est une forme de propre justice en fait, et le besoin de se sécuriser. Beaucoup de radicalité, et quand je dis radicalité, c'est pas au sens propre d'aller à la racine des choses, nous sommes appelés à aller à la racine des choses, mais dans le langage moderne, la radicalité c'est l'extrême, on va dans un extrême ou on va dans un autre. Beaucoup de radicalité viennent d'un cœur qui cherche une assurance. Donc soit par la maîtrise, on cherche à contrôler, soit par la pureté, soit par la validation dans le regard des autres. C'est ce que faisaient constamment les pharisiens qui tiraient leur gloire les uns des autres. Donc ça ressemble à une forme de convoitise, mais une convoitise qui est religieuse. C'est-à-dire une convoitise de justice propre, de contrôle et de sécurité. Par exemple, dans Galates 4, on avait vu ça quand on a commenté l'épître aux Galates, il était dit qu'il y avait des judaïsants qui débarquaient à Galates et qui essayaient évidemment de convertir les Galates à leur point de vue. Mais il est dit, et c'est intéressant, qu'il voulait que les Galates deviennent zélés pour eux et non pas pour le Seigneur. Parce qu'en fait, ça les sécurisait que d'avoir les Galates qui viennent à leur point de vue. Et c'est toujours comme ça que fonctionne ce zèle. Donc on crée des dissensions. À Antioche, le même bazar a eu lieu et il a fallu que Paul, souvenez-vous, aille à Jérusalem pour résoudre une bonne fois la source, cette source de dissensions, de querelles, voire de guerres, à propos du rapport entre la Nouvelle Alliance et le judaïsme. Alors maintenant, si je dis que les guerres et les querelles dans l'Église viennent de guerres et de querelles internes, quel en est le mécanisme profond? Lorsqu'il y a une guerre interne, c'est que l'âme est sous pression. Alors vous savez bien que j'aime bien parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et justement, il est polarisé, il est divisé. Alors, je vais vous donner des exemples concrets après. Hein. Mais voilà, il y a un mécanisme de dissension en nous qui vient du fait que depuis la chute, nous sommes porteurs de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le moteur interne de la division de l'âme fragmentée entre le bien et le mal. Donc une personne qui est ainsi radicale, c'est en général une personne qui est très sûre dans sa tête et qui le fait savoir, mais qui est très agitée en fait dans le cœur. Il n'y a pas de paix dans le cœur. Donc les certitudes, ou pour employer un terme dans 2 Corinthiens 10, les forteresses de raisonnement trahissent souvent en fait un cœur qui lui est très agité. Alors j'ai anticipé un peu en donnant des exemples. Justement, je viens de parler de forteresses de raisonnement. Quand on a une âme qui est divisée, on essaye de se sécuriser. Pour se sécuriser, en général, on cherche des absolus. On cherche des points fixes. Malheureusement, on ne le cherche pas dans la relation avec le Seigneur qui pacifie le cœur, mais on va le chercher dans des points d'ancrage extérieurs qui nous donnent des certitudes. Typiquement, il y a deux lieux où l'on peut chercher ces certitudes-là. La première, ces absolus plutôt. La première, c'est dans la théologie. Alors, chaque fois, on me dit, oui, Jean-Marie, tu parles contre la théologie, tu es contre la raison. Non, je ne parle pas contre la théologie et contre la raison, je parle contre des forteresses de raisonnement qui réduisent la vie chrétienne à des forteresses de théologie, des systèmes extrêmement rigides. Nous avons parlé tout à l'heure, par exemple, pendant les échanges, avant le message, on a parlé de la notion de la grâce. Voilà. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et certains vont bâtir tout un système théologique sur cette grâce qui nous tombe dessus et nous justifie en un acte, un décret divin. Là où d'autres vont dire, nous sommes justifiés par la grâce, par le moyen de la foi, et Jacques nous dit même, une foi vivante et qui produit des œuvres. Et sans ces œuvres-là, cette foi est morte. Et là, on comprend que la grâce de Dieu, c'est celle qui nous transforme de l'intérieur, qui fait une œuvre à l'intérieur pour que la foi vivante se traduise en œuvre d'obéissance. Une foi qui marche, une foi qui obéit. Alors on n'a pas du tout le même discours entre une foi définie théologiquement, rationnellement, versus une foi vivante, en action, qui marche et qui est constamment accompagnée de la grâce de Dieu. Et on l'a dit tout à l'heure, la grâce de Dieu, c'est la bienveillance de Dieu, la perception que Dieu nous est favorable, Dieu nous est propice. Donc vous voyez que dans le challenge et l'aventure qui est la marche avec le Seigneur à découvrir sa bienveillance et sa grâce et son amour, on peut le remplacer par des certitudes théologiques, des décrets divins. Mais où est la relation? Où est le cœur? Où est l'amour là-dedans? On est enfermé. Et comment est-ce qu'on le voit qu'on est enfermé? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des tensions internes, on se radicalise et on coupe avec ceux qui ne pensent pas comme nous. Donc là, je vais dire quelque chose qui va choquer certains. Les révolutionnaires sont caractérisés par trois choses. On fait table rase du passé. On impose une pureté doctrinale et on coupe les têtes à tous ceux qui ne s'y soumettent pas. Alors maintenant, je vais vous surprendre parce qu'en latin, vous savez comment on dit le temple en latin? À part le templum, il y a un deuxième mot, c'est le mot fanum, qui a donné le mot fanatique. Bien, les fanatiques religieux sont comme les révolutionnaires athées. On impose une pureté doctrinale et on coupe la tête de ceux qui ne pensent pas comme nous. On se coupe des frères. Et vous voyez que là, le langage de Jacques, les querelles et les guerres, là, ça prend un terme, voilà, parce qu'on ne va pas forcément prendre une épée physique pour couper la tête, mais on fait exactement la même chose quand on coupe la communion avec un frère ou une sœur qui ne pense pas comme nous. On devient un fanatique. Vous voyez? Donc ça peut, sous couvert de pureté doctrinale, en fait, on se révèle coupeur de tête. Et donc, merci Abdel, j'ai tendance à bouger de part et d'autre de la chair. Donc, vous voyez que ça peut très très vite venir, et on est absolument certain d'être dans la bonne position, parce que nous défendons l'orthodoxie chrétienne. Mais en fait, nous sommes fanatiques. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une tension interne. Il y a une division interne qui se manifeste nécessairement extérieurement. On coupe des relations. L'unité de la foi, elle est dans la confiance en Jésus. Ce qui fait le lien entre nous, c'est la communion à Jésus. Ce n'est pas la manière dont on comprend tel ou tel verset, puisque l'Esprit peut très bien nous parler par un même passage de manière extrêmement différente aux uns et aux autres. Ce qui montre bien que la parole est un moyen pour un dialogue vivant, et ce dialogue ne va pas être le même pour moi, pour Abdel, pour Dorothea, pour. Parce qu'on a des questions différentes, des chemins différents. Donc la parole, vous voyez, la réduire à la compréhension humaine et en faire un système doctrinal rigide, on perd cette notion vivante d'une parole vivante qui a besoin constamment d'être révélée. Et tel verset aujourd'hui ne me parlera pas, alors qu'à tel frère ou telle sœur, waouh, ça va apporter quelque chose. Et puis le lendemain, ça sera autre chose. C'est dynamique. La parole, c'est un moyen vers un but. Ce n'est pas un but en soi. La parole est un moyen vers un but. On a parlé de la parole en tant que miroir pour montrer notre visage naturel. Et on parle aussi de la parole comme étant celle qui va nous révéler qui est Dieu. Hein, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut les deux. On ne peut pas voir Jésus si on ne voit pas notre péché. On ne peut pas voir notre péché si on ne voit pas Jésus. Ça, c'est un extrême. Mais il y a un autre extrême. Donc là, j'allais presque dire la forteresse de raisonnement, c'est la lettre sans l'esprit. Mais on peut voir également l'esprit sans la lettre. Ça, c'est quelque chose qui me parle souvent. La manière dont nous parlons de notre relation à Dieu. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. Il faut faire très attention à ça. Pourquoi ? Parce que si Dieu m'a révélé, ce que m'a révélé, par définition, vient de Dieu. Donc c'est inhérent. Donc c'est absolu. Donc qui es-tu pour remettre en cause ce que Dieu vient de me révéler ? Et on ne se rend pas compte, en fait, on est en train de s'enfermer soi-même dans nos révélations. On les absolutise, on les absolutise, et on a aussi tendance à nous couper de ceux qui n'ont pas les mêmes lumières, les mêmes révélations. Ça, il faut faire très attention à ça. On absolutise. Et pourquoi on absolutise encore ? Parce qu'il y a une tension à l'intérieur qu'on essaye de calmer, qu'on essaye de résoudre. Et plutôt que de la résoudre dans cette simple dépendance au Seigneur, on essaye de la résoudre à l'extérieur à l'égard des autres. Hein ? Donc attention, Dieu m'a dit. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas, évidemment. Je crois profondément que Dieu peut nous parler. Mais entre une révélation que l'on garde pour soi et qui transforme notre vie dans tel ou tel domaine dont on voit le fruit, et le Dieu m'a dit que l'on entend 10 fois par jour, et que l'on impose aux autres, parce que c'est pour ça qu'on dit Dieu m'a dit. Parce que si je dis à mon frère ou à ma sœur Dieu m'a dit, c'est sous-entendu, ne remet pas en cause ce que je viens de dire, parce que c'est Dieu qui me l'a dit. Alors ça c'est marrant, parce que j'y pensais ce matin, et je pensais à la doctrine de l'infaillibilité papale. Lorsque le pape parle ex cathedra, c'est-à-dire sur le siège dans la cathédrale Saint-Pierre, ce qu'il dit est infaillible. Dieu lui a dit. Et je lui dis, tiens, est-ce qu'il y a un lien entre certaines manières de parler que nous avons, Dieu m'a dit, avec en fait ce qui se passe dans le catholicisme, cette inhérence infaillibilité papale. Des fois, je me pose la question. Et c'est très très simple, il suffit de voir comment la personne réagit, une personne qui a dit « Dieu m'a dit », quand on pose simplement des questions, mais tu es sûr que c'est ce que dit la parole ? Tu es sûr que ça cadre avec ? Et là, on voit la réaction. On a touché à quelque chose. Ça, c'est pour illustrer le fait que des querelles externes, des divisions externes et des guerres externes dans l'Église sont en général le reflet de tensions qu'on essaye de résoudre, de supprimer par des absolus. On pose des absolus. Et en général, comme je l'ai dit, ces absolus qui nous enferment sur nous-mêmes, dans nos certitudes ou dans notre relation à Dieu, en général, on cherche à l'imposer aux autres. C'est-à-dire qu'on est insécurisé si l'autre ne se conforme pas à notre certitude, notre forteresse ou notre manière de faire. On devient insécure. On a du mal à gérer la différence. On a du mal à gérer la diversité. Et j'aime à dire, et je le dis souvent, que la marque de l'Esprit de Dieu dans une église, c'est sa capacité à gérer la différence et non pas à amener à l'uniformité. En fait, l'uniformité, c'est très simple, ce sont les sectes qui la cherchent. Dans une secte, tout le monde pense comme le gourou. C'est comme ça qu'on parvient à l'unité, mais qui n'est pas l'unité de l'esprit, c'est l'uniformité, la conformité en se calant sur un gourou. Vous voyez ? Alors que ce qui fait notre unité, bibliquement, c'est la relation à Jésus, le fait que Jésus soit au centre. Et à partir de là, l'esprit se plaît dans la diversité. Alors ici, on est bien servi, déjà par la diversité des cultures, la diversité des pays d'origine, ce qui veut dire, on ne s'en rend pas compte, mais des schémas et des manières de penser parfois extrêmement différents. Alors je me disais, mais si j'assistais par exemple à un culte chrétien en Chine, bien des choses me surprendraient et je serais sans doute mal à l'aise en me disant, mais les Chinois, ils pensent comme ceci, ils font comme cela, et pourtant ils sont tout aussi inspirés que nous. Donc, il y a une incarnation du Seigneur dans les foules, les peuples et langues et les nations. J'aime beaucoup cette expression dans l'Apocalypse qui est reprise plusieurs fois. Les foules, les peuples, les langues et les nations. On ne cherche pas à unifier en une seule langue, une seule culture et une seule manière de faire. Mais pour certains, la différence et la diversité, ça insécurise. Parce qu'on cherche un absolu en dehors de la relation à Jésus. Et cette foi que j'ai, je la garde pour moi devant Dieu. On peut la partager en rang de témoignage, mais je ne ressens pas le besoin de l'imposer à l'autre pour le faire à mon image et par là me sécuriser moi-même. Vous voyez ? C'est ce mécanisme-là, je pense, dont Jacques nous parle ici. Une âme sous tension est une âme binaire. Elle voit tout en bien, mal, vrai, faux. Ça s'appelle du légalisme. Ce que je viens de décrire là, en quelques minutes, c'est ce que la Bible appelle le légalisme. C'est du légalisme. Je suis dans le camp du bien et je m'oppose à ceux qui sont dans le camp du mal. Et non pas l'amour qui accomplit la loi, qui permet de sortir de cette tension interne, le troisième pôle, l'arbre de la vie, donc par amour pour Jésus. Donc je le répète, ce qui fabrique une radicalité et qui cause des divisions externes, c'est une division interne, et en général, une personne qui est sûre dans sa tête est agitée dans son cœur. Plus on est dans ses certitudes, plus en fait on est agité intérieurement. Voilà, je ne vais pas développer encore plus, mais donc une polarisation comme cela, et les divisions qui en résultent, c'est une tentative charnelle de fabriquer la paix par la conformité, par le contrôle moral. C'est ce que les pharisiens passaient leur temps à faire. Alors que la paix de l'esprit, elle vient de l'humilité et de la confiance. Et c'est pour ça que Jacques va nous parler de l'humilité juste après. Donc là, il faut vraiment que j'avance. Vous convoitez, vous n'avez pas. Vous tuez, vous êtes jaloux. Vous n'obtenez pas, vous vous querellez, vous faites la guerre, et vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas, et vous demandez et ne recevez pas parce que vous demandez d'une mauvaise manière afin de nourrir les convoitises, nourrir l'ego. Le sujet de la prière est souvent délicat parce que, voilà, on peut avoir toutes sortes de conceptions de la vie de prière. Déjà, je rappelle que Jésus dit que ce n'est pas la peine de multiplier les paroles. Dieu sait ce dont on a besoin. Mais également, on peut demander mal sans obtenir, et on se demande souvent, mais pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas à la prière? Alors l'artifice, c'est de dire, oui, mais Dieu répond toujours, mais pas forcément de la manière que je perçois. Il faut peut-être aller un petit peu plus loin, puisque Jacques nous dit, mais il y a des fois où Dieu ne répond pas, parce que la prière, elle est égocentrée. Et donc là, il ne s'agit pas simplement de dire, oui, mais Dieu a répondu, mais je ne le vois pas. Il faut plutôt se dire, oh là là, Dieu ne répond pas, mais quelle était la motivation profonde de ma prière? Parce que c'était chercher le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous est donné. Ou alors, j'ai demandé pour satisfaire quelque chose qui relève de la convoitise. Dans la première épître de Jean, au chapitre 5, il est dit que si nous prions selon la volonté de Dieu, nous savons que nous obtenons ce que nous avons demandé à Dieu. Et donc, ça sous-entend qu'il y a toujours une prière avant la prière. Avant de demander quelque chose, c'est est-ce que c'est conforme à ta volonté? Est-ce que c'est conforme à ta parole? Est-ce que c'est conforme à l'esprit de ta parole? C'est peut-être une chose qu'il faut se demander, la prière avant la prière. Mais également, dans Psaume 66, si j'avais conçu l'iniquité, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Donc là aussi, où est-ce que nous en sommes dans notre marche avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des désobéissances volontaires, des persévérances volontaires qui font que le Seigneur dit non, mais attends, il y a d'abord ça à gérer, ça à régler. Proverbe 28, celui qui détourne l'oreille de la loi, sa prière même est une abomination. Waouh! Alors, détourner l'oreille de la loi, c'est pas, le remède, ce n'est pas de devenir légaliste, évidemment. C'est toujours pareil, c'est de retrouver ce chemin vers l'accomplissement de la loi par la relation à Jésus. Mais également, l'obstacle à la prière peut être interrelationnel. C'est Pierre qui dit dans sa première épître au chapitre 3 qu'un mari maltraitant et sans honneur à l'égard de sa femme, ses prières sont empêchées. Il y a un obstacle à la prière. Donc ça peut être également des relations les uns avec les autres. Quand on prend la scène, on témoigne de l'unité du corps. Pas forcément que tout était réglé dans ma vie, mais par contre je peux regarder chacun et dire il n'y a rien entre moi et lui ou moi et elle, puisque la scène, nous témoignons de l'unité du corps. Et Jésus va dire, si tu vas vers l'autel et là tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, va d'abord te réconcilier, et ensuite tu vas offrir ton offrande. Un autre obstacle à la prière, c'est le doute. Comme je l'ai dit avant, en araméen, le doute, c'est le partage, la division interne, dont j'en ai déjà parlé avant. Donc on peut prier longuement, mais en fait on prie dans le doute, il y a un partage interne, il y a une tension interne, il y a un manque de paix interne, qui fait que la prière n'est pas simple devant Dieu. Il y a une instabilité. C'est ce que disait Jacques déjà dans son premier chapitre quand il était question de demander la sagesse à Dieu. Et Jacques dit, mais ne la demandez pas si vous êtes divisé en interne, à l'intérieur de vous. Enfin, il y a des non-réponses qui n'en sont pas en fait, mais par contre, qui sont simplement des temps d'attente où Dieu attend pour éprouver notre persévérance. On a des exemples comme ça de la prière de la veuve qui va prier le juge et qui va insister jusqu'à ce que le juge réponde. Et Dieu fait pareil parfois, mais pas parce que Dieu est dur, mais c'est pour éprouver notre foi, pour manifester à quel point nous le désirons et nous le cherchons. Enfin, il y a d'autres types de prières auxquelles le Seigneur ne répond pas. Il y en a un exemple très célèbre dans 2 Corinthiens 12. « À cause de l'excellence des révélations qui m'ont été faites, et afin que je n'enfle pas d'orgueil, Dieu a mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. Trois fois j'ai demandé au Seigneur de l'éloigner de moi. Trois fois il m'a répondu, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité, dans la faiblesse. » Voilà une prière que même l'apôtre Paul a prononcée et à laquelle le Seigneur n'a pas répondu, il n'a pas enlevé les chardes, parce qu'il voulait préserver Paul de l'orgueil. Donc il y a des choses dont on aimerait être débarrassé, il y a des infirmités, parce que c'est le terme en araméen qui est employé là, c'est le même terme qui est employé quand Paul dit dans Galates, c'est à cause d'une infirmité de mes yeux que pour la première fois, vous avez pu entendre l'évangile. J'ouvre une parenthèse. Quand le Seigneur apparaît à Paul sur le chemin de Damas, où est-ce qu'il frappe Paul ? Aux yeux. Dans l'épître aux Galates, il dit, c'est à cause d'une infirmité au niveau des yeux que pour la première fois, vous avez entendu l'évangile. Et vous n'avez pas été dégoûté. Alors, on ne sait pas exactement ce qu'il avait, mais au contraire, vous m'avez reçu comme un messager, comme un ange du Seigneur. Vous voyez ? Et Paul va dire également, il est obligé de dire dans certains épîtres, vous voyez là, j'ai pu signer de ma propre main, mais j'ai dicté la lettre. Ce n'est qu'une hypothèse, mais on sent que Paul avait sans doute un problème avec la vue. Peut-être avait-il d'énormes migraines à cause de ça. Dieu l'en a jamais délivré. Il lui a dit, afin que tu restes humble, afin que tu restes dépendant de moi, à cause de l'excellence des révélations que je vais te donner, il ne faut pas oublier que Paul est l'auteur de, on va dire, le tiers de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, j'ai mis une écharde dans ta chair, quelque chose qui va te faire souffrir, qui va t'humilier, tu vas dépendre d'un frère pour pouvoir écrire tes propres lettres, mais je ne t'enlèverai pas cette écharde. Et Paul pourtant avait supplié le Seigneur 3 fois. Donc des fois, c'est pour notre bien que Dieu ne répond pas à nos prières. Ce qui est en soi une réponse. Parce que Paul a fini par comprendre, ah oui, c'est pour que je n'enfle pas d'orgueil. Voilà, et ça va nous amener évidemment sur le terrain de l'orgueil. C'est avec jalousie que Dieu désire l'esprit qui a demeuré en nous. Donc Dieu est jaloux de l'esprit qu'il met en nous. Mais il accorde une grâce, une bienveillance, une faveur plus abondante. C'est pourquoi il est dit, Dieu humilie l'orgueilleux et à l'humble, il donne grâce. Il y a 2 manières de comprendre Dieu humilie l'orgueilleux et fait grâce à celui qui est humble. On pourrait dire, ben voilà, le monde est divisé en 2. Il y a les orgueilleux, Dieu leur résiste, et il y a les humbles, Dieu leur fait grâce. Là, on a encore une vue binaire, polarisée. Mais il y a une autre manière de voir cela. Dieu va humilier l'orgueilleux pour le rendre humble et pouvoir lui faire grâce. Mais alors là, ça a des profondes conséquences théologiques, ça. Ça veut dire qu'il va falloir que Dieu nous humilie d'abord avant de pouvoir nous faire grâce. Et là, on est à nouveau dans cette œuvre que le Seigneur fait depuis le moment où nous sommes orgueilleux, donc morts dans nos péchés et loin de Dieu. Nous sommes tous orgueilleux, ça veut dire tous marchant selon notre ego, selon notre chair. Et puis Dieu va intervenir dans notre vie et par les circonstances va nous humilier pour pouvoir nous faire grâce. Une grâce donc non pas bon marché, comme disait Bonhoeffer, qui va justifier le péché, mais une grâce qui va nous coûter notre vie et qui va justifier le pécheur. C'est tout le sens à nouveau de Romains 6. Dieu, comment il est dit exactement ? Quelqu'un peut m'aider ? Pécherions-nous afin que la grâce abonde ? Paul dit surtout pas. Au contraire, la grâce de Dieu, c'est ce qui nous sort du péché. Donc on ne va pas justifier le péché sous couvert du fait que Dieu nous pardonne. Non, cette grâce, elle est transformante. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc on peut voir ce verset non pas comme un jugement binaire, il y a les orgueilleux d'un côté et les humbles de l'autre, mais plutôt comme une pédagogie. Dieu nous prend là où nous sommes, c'est-à-dire dans l'orgueil, au moment où il nous appelle, et il va œuvrer pour nous rendre humbles et nous pouvoir nous faire grâce. Donc cette grâce qui commence à l'appel, c'est également une grâce transformante pour nous amener à l'humilité. Mais c'est quoi l'humilité ? Paul le dit dans Colossiens 2, je ne vais pas le lire entièrement, c'est les versets 18 à 23, il est dit que l'on peut pratiquer une apparence d'humilité. Et également qu'on peut rendre un culte volontaire à l'humilité. Alors je vais me présenter aujourd'hui devant vous de manière humble. Je vais marcher la tête basse, avec des petits pas, parler avec une petite voix, parce que parler fort, c'est être orgueilleux, et je vais prendre une apparence d'humilité, pour que tout le monde voit bien combien je suis humble. On va même mettre la capuche sur la tête. On en rigole, mais en fait, il y a des milieux qui sont comme ça, où on pratique, on rend un culte non pas à Jésus, mais à l'humilité. Donc c'est quoi l'humilité selon la parole de Dieu? C'est extrêmement simple. Jésus est grand. Jésus est grand. J'ai une vision d'un grand Jésus. Et moi, à côté, je suis un petit enfant. Alors qu'importe mon apparence, que je sois dynamique ou réservé, que je parle fort ou je chante fort, ou que je chante doucement, c'est pas lié à notre caractère, à notre apparence. C'est le regard que nous avons sur Jésus. Jésus pouvait dire de lui-même, je suis doux et humble de cœur. Alors, j'avais entendu quelqu'un une fois qui disait, ah, quelqu'un qui dit de lui-même qu'il est humble, c'est un sacré orgueilleux, hein. Et j'ai répondu, tiens, mais Jésus, il a dit qu'il était doux et humble de cœur. Qu'est-ce que tu dis de Jésus? Et pourquoi Jésus pouvait dire qu'il était doux et humble de cœur? C'est dans Matthieu 11 qu'il dit ça. Parce que juste avant, qu'est-ce qu'il a dit? Juste avant. Avant de dire, je suis doux et humble de cœur, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, qu'est-ce qu'il a dit? Je te loue, Père. Je te loue, Père, toi qui es plus grand que moi. Je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants, c'est-à-dire à moi. Jésus avait une relation d'enfant avec son Père, de dépendance, de confiance, d'abandon. Et parce qu'il a confessé cela au Père juste avant, il pouvait dire, du coup, je suis doux et humble de cœur. Parce que le Père est plus grand que moi. Et je le loue. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est la mesure que l'on a de la perception de Jésus. Que Jésus est petit à nos yeux, ou est-ce qu'il est grand et exalté, et glorieux, et majestueux. Donc l'humilité n'est pas un style, ce n'est pas une apparence. L'humilité, c'est un centre. Sur quoi sommes-nous centrés? Sur Jésus? Sur qui plutôt? Sommes-nous centrés sur Jésus? Ou alors sur l'assemblée et le regard des autres, la gloire les uns des autres pour montrer à quel point je suis pieux. Ça, c'est très facile, malheureusement, à faire. Et donc, pour ma part, quand je lis « Dieu humilie l'orgueilleux et à l'humble, il donne grâce », il humilie l'orgueilleux pour qu'il devienne humble et qu'il puisse lui faire grâce. Donc, c'est une œuvre. Je parle à chaque fois d'un processus. Notre transformation est un processus, notre conversion est un processus. Dieu ne nous prend pas juste à l'appel, il nous accompagne dans son processus. Il nous fait traverser le désert, il nous fait éprouver la faim et la soif pour découvrir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il nous fait éprouver cela pour que nous nous attachions à lui et nous faire grâce. Donc la grâce, elle nous accompagne et elle nous transforme. C'est la compréhension qu'en avaient les anabaptistes. Enfin, assujettissez-vous donc à Dieu, tenez debout et résistez face à Satan, et il fuira loin de vous. Et là, on voit ce processus qui transforme l'orgueilleux en humble. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs. Sanctifiez vos cœurs, vous qui êtes divisés. Humiliez-vous, lamentez-vous, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Donc je vais aller brièvement là-dedans. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand on le lit en araméen. Alors, outre le fait que l'on voit ce processus, que j'ai décrit un peu avant déjà, donc je ne vais pas répéter les choses, c'est premièrement, tenez-vous debout face à Satan. Et le verbe qui est employé là, c'est « cum ». Alors, ça ne vous dit rien. sauf que vous connaissez toute l'expression araméenne dans le texte grec du Nouveau Testament, Talita cum, jeune fille, lève-toi, ressuscite. Alors ce n'est pas le sens premier évidemment qui est là, là c'est tenir ferme comme dans Éphésiens 6, avec le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, c'est tenir ferme face à Satan. Exactement comme Jésus dans le désert a tenu ferme en disant « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Mais le deuxième sens que je vois dans ce passage, c'est « soumettez-vous à Dieu et ressuscitez ». Soumettez-vous à Dieu pour ressusciter. Et ça, en fait, c'est la dynamique que l'on voit dans Romains 6. L'union à Jésus dans sa mort pour expérimenter l'union à Jésus dans sa vie. Soumettons-nous à l'œuvre de la croix jusqu'à la mort pour expérimenter l'œuvre et l'œuvre de l'esprit, donc l'esprit de vie, avec le Jésus ressuscité. Considérez-vous comme mort, comme il est dit dans Romains 6, et du coup, devenu vivant, présentez vos membres à Dieu. Donc ça m'a frappé l'emploi de ce verbe cum, de tenir face au diable en tant que ressuscité. Et alors le diable fuira. Voilà, on peut confronter le diable de manière charnelle. Les sept fils de Sheva ont voulu faire ça dans le livre des Actes, et ça s'est très très mal passé pour eux. On entre dans un rapport de puissance plutôt que de simplement être dans une posture de vie avec la parole de Dieu. Il est écrit, et le diable fuira. On a la même idée dans la première épître de Jean, au chapitre 2, à propos des jeunes gens, ceux qui passent du stade de bébé, qui ont besoin de lait, parfaitement normal, mais ensuite ils deviennent des jeunes gens qui sont forts, car la parole de Dieu demeure en eux, et ils ont vaincu le malin. Voilà, on ne peut pas vaincre le malin si la parole de Dieu ne demeure pas en nous. Et j'ai souvent donné dans des messages précédents combien la tradition, nos systèmes, nos forteresses sont autant d'obstacles qui remplacent la parole de Dieu vivante et nous rendent en fait impuissants face au diable. Et on retrouve enfin, et je conclus avec ça, le même enchaînement de l'orgueil vers l'humilité dans la première épître de Pierre, quand il nous est dit également dans 1 Pierre 5 de nous humilier sous la puissante main de Dieu, de rester sobre et vigilant, de résister au diable dans une foi qui est ferme. Je vous rappelle qu'en araméen, ferme renvoie toujours à l'esprit. C'est un terme araméen qui renvoie à l'esprit de fermeté, qu'on traduit dans le Jean 14, 15, 16 par un esprit de vérité, et on pense immédiatement doctrine, alors que non, quand il est dit un esprit de vérité dans Jean 14, 15, 16, c'est un esprit qui affermit notre cœur en Jésus. L'œuvre de l'esprit, c'est d'affermir notre cœur en Jésus, pour que nous ne soyons plus divisés avec des querelles et des guerres internes. Donc voilà, la première épître de Pierre au chapitre 5, il y a souvent des échos entre l'épître de Jacques et la première épître de Pierre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, souvent ils abordent les mêmes thèmes. Donc Pierre décrit également ce chemin qui mène de l'orgueil vers l'humilité en y associant la vigilance, la sobriété, la résistance face à Satan. Donc, conclusion. Bien, c'est la pensée de départ. L'âme partagée, l'âme divisée, dont Jacques parle dès le premier chapitre, est la source des querelles et des guerres externes dans l'Église. Donc s'il y a des tensions en externe, c'est qu'il y a des tensions en interne. C'est pour ça que dans le verset 8, Jacques dira « Sanctifiez vos cœurs ». Et je complète avec ce que dit Paul, « Sanctifiez Jésus ». Dans vos cœurs. Sanctifier Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mettre à part. Qu'il ait dans nos cœurs la place d'honneur. Qu'il soit le premier. Il est dit dans Apocalypse 2, il est question du premier amour. Est-ce qu'il y a encore ce premier amour comme au moment de l'appel? Est-ce que nous avons ce premier amour qui accomplit la loi? Si nous perdons le premier amour, nous retombons dans cette division interne du bien et du mal, et donc d'une manière ou d'une autre, de manière subtile ou avérée évidente, nous redevenons légalistes et nous comptons sur nos propres forces plutôt que de compter sur le Seigneur. Donc sanctifier Jésus dans les cœurs, ça c'est ce qui unifie notre intérieur, c'est ce qui nous rend paisible devant Dieu, c'est lorsque notre regard est simple à l'égard de Jésus et non pas divisé. Parce que nous dit Jésus lui-même dans Matthieu 6, on ne peut pas servir deux maîtres. Voilà, je vais conclure avec ça. Donc, retenons simplement cette idée que s'il y a des tensions, des querelles et des guerres dans l'Église ou dans telle ou telle Église ou entre Églises, c'est qu'il y a sans doute des tensions, des querelles et des guerres à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, Jésus n'a pas pu pacifier encore notre intérieur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.